Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, c'est aujourd'hui le dimanche dans l'octave de l'Ascension. C'est également la solennité de Sainte Jeanne d'Arc, patronne secondaire de la France. Je vais, comme je vous l'ai promis, vous encourager à l'exercice de la miséricorde. Le lien à faire avec la fête de Sainte Jeanne d'Arc n'est pas difficile, bien entendu, puisque si quelque qualité brille en Sainte Jeanne d'Arc, c'est bien la miséricorde. Et quoi qu'on la représente le plus souvent avec une armure et une épée qui nous annonce l'exercice de la force ou de la justice, malgré tout, notre Seigneur a eu pitié du royaume de France et Sainte Jeanne d'Arc a repris cette expression, il y a grande pitié au royaume de France. Et toute sa mission est une mission de miséricorde envers le royaume. Là, posons d'emblée un principe essentiel pour l'action humaine, à savoir que l'activité des hommes, l'action des hommes, devrais-je dire, doit imiter l'action de Dieu. Saint Thomas d'Aquin pose cet adage, ce principe plutôt, pour le gouvernement. Le gouvernement des hommes doit imiter le gouvernement de Dieu. Il est évident que ce principe ne se limite pas au gouvernement, tout d'abord parce que le gouvernement peut s'entendre dans un sens très large. Tout homme gouverne quelque chose, il gouverne sa vie. Il gouverne ceux qui lui sont confiés, et alors l'adage ou le principe plutôt s'applique pleinement. Et surtout, si on se rappelle que l'homme a été créé à l'image de Dieu, il est évident que cette image n'est pas statique, mais qu'on la retrouve dans toute l'activité humaine, dans toutes les œuvres des hommes. Donc, nous devons imiter Dieu dans tout ce que nous faisons. Or, saint Thomas pose la question, lorsqu'il étudie les qualités divines, les perfections, devrais-je dire, les perfections divines, il pose une question, qu'est-ce qui domine en Dieu? Est-ce la justice ou la miséricorde? Et il répond la miséricorde. Parce que l'homme ne pouvait rien réclamer à Dieu, tout ce qui lui est donné purement gratuitement. Dieu se penche sur l'homme, sur son néant, sur sa misère, et ce n'est qu'après l'avoir enrichi de ses dons qu'il lui demande d'exercer la justice, c'est-à-dire de respecter le don, le donateur, c'est-à-dire Dieu, la manière de s'en servir, etc. Si donc Dieu exerce la miséricorde avant la justice, il s'ensuit que l'homme doit lui aussi exercer la miséricorde avant la justice. Je ne parle pas d'un avant chronologique. Je veux dire, je parle d'un avant, une priorité de nature. C'est-à-dire que la miséricorde va précéder par nature la justice elle va englober la justice, ou plutôt que la justice va être vue comme un acte de miséricorde. Nous y reviendrons en parlant de la justice. Par conséquent, il n'est pas étonnant que notre Seigneur, fixant les critères du jugement dernier, donne seulement l'exercice de la miséricorde. Venez à la droite, les bénis de mon Père, car j'ai eu faim, vous m'avez nourri, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'errais et vous m'avez recueilli, j'étais malade ou en prison et vous m'avez visité. L'Église a complété la liste, qui n'était qu'une liste indicative, en ajoutant le rachat des captifs et l'ensevelissement des morts. Il peut paraître étonnant que nous soyons jugés sur les actes de miséricorde et non pas sur les actes de religion, sur les actes de foi. Alors, qu'en est-il ? Tout d'abord, il est relativement facile de comprendre que nous serons jugés sur la miséricorde avant d'être jugés sur les actes de justice ou autres, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est la justice procède de la miséricorde. La force procède de la miséricorde. Je ne vous en donne qu'un exemple pour ne pas rester trop dans la théorie, parce que sinon vous n'allez pas comprendre ce que je vais vous dire. Lorsqu'un père punit son enfant, il fait à la fois un acte de justice et un acte de force, et il est évident que c'est un acte de miséricorde. On peut se reporter pour cela à la déclaration du 2 février 1963 du colonel Bastien Thiry, qui explique, qui justifie son action en disant que les plus grands actes de force peuvent être quelquefois les plus grands actes d'amour. Et tout le contexte indique qu'il s'agit de l'amour de miséricorde. Nous serons donc jugés sur la miséricorde, et remarquez bien, mes bien chers frères, qu'il suffira de ne pas l'avoir exercée pour être condamné. Il ne sera pas nécessaire pour être condamné d'avoir contredit la miséricorde, d'avoir violé la miséricorde. Il suffira de ne pas l'avoir exercée. Et pour répondre à la deuxième partie de l'objection que nous nous faisions, pourquoi la miséricorde est-elle le critère du jugement plus que la foi ou la charité ? C'est très simple, étant donné ce que je vous ai dit le jour de l'Ascension, la miséricorde procède de la charité. Elle est une sorte de survertu, de vertu première, qui procède immédiatement de l'amour de Dieu lorsque Dieu se penche sur la créature. Et par conséquent, il n'y a pas de miséricorde possible sans la charité, et le critère du jugement qui a pour but de révéler, de mettre en valeur quelle est notre charité, ce critère est très clair s'agissant de la miséricorde. Il est évident, et ça je vous l'ai dit le jour de l'Ascension, que la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu, est bien plus important que la miséricorde, mais étant donné le principe que j'ai posé, que Dieu a posé. Étant donné ce principe que je vous ai rappelé, à savoir que nous devons imiter Dieu dans sa manière d'agir, il est évident que l'amour de Dieu, même s'il est premier et plus important, est parfaitement révélé par la miséricorde. Dieu est miséricordieux, et il l'a été, on peut dire, deux fois. Il l'a été tout d'abord en nous communiquant un trésor, le trésor de la vie divine, le trésor de sa sagesse, le trésor de la perfection de la vie de l'homme, notamment au paradis terrestre. C'est extraordinaire ce qu'aurait pu être, ce qu'aurait dû être le paradis terrestre. Ça aurait été comme un grand monastère dans lequel personne ne serait disputé avec autrui, dans lequel personne n'aurait manqué de respect à autrui. Bien plus que cela, ça aurait été comme un grand monastère dans lequel tout le monde aurait communié dans le même souci, le même désir, plus qu'un désir et un souci, dans le même amour de Dieu mis en œuvre de toutes les façons que donne la vie humaine. Ce n'est pas qu'il y aurait eu une stricte égalité à la Rousseau, c'est une évidence. Il y aurait eu des chefs, il y aurait eu même des notaires ou des avocats qui n'auraient pas eu pour but de résoudre les problèmes, mais de faire que tout soit parfaitement respecté. Et chacun aurait sollicité les conseils, j'ai un exemple qui me vient comme cela à la tête, aurait sollicité les conseils d'un avocat pour être sûr de ne pas léser son voisin, et évidemment, non pas parce qu'il y aurait eu des conflits. Nous aurions été dans un enthousiasme extraordinaire, mais ça aurait quand même été une miséricorde, puisque rien de tout cela ne nous était dû. L'homme a tout gâché, et Dieu, dans sa grande miséricorde, le père Bariel aimait nous rappeler, et très souvent il le faisait avec une grande émotion, nous rappeler que la marque de Dieu, c'est la miséricorde. Dieu, dont la caractéristique est de faire miséricorde, dit la liturgie. Notre Dieu, par conséquent, voulant continuer, poursuivre le bien qu'il faisait aux hommes, a envoyé son Fils Jésus-Christ. Grande œuvre de miséricorde. Dieu lui-même s'incarne, il vient sauver la créature révoltée, il vient, lui le maître, sauver l'esclave, et cette miséricorde est très profonde, et ça aussi c'est un principe pour nous, il va falloir le retenir pour la suite, à savoir qu'elle ne remédie pas extérieurement au problème, elle renouvelle de l'intérieur pour que l'homme de nouveau puisse par soi-même accomplir cette belle œuvre que Dieu lui avait demandé d'accomplir. L'homme est profondément restauré, il est remis dans l'amitié de Dieu. Et ainsi, il retrouve la capacité à imiter de nouveau Dieu dans son être et dans son action. La miséricorde est tellement importante que, bon, je vous en parlerai encore d'autres fois, mais nous sommes encore dans les grands axes et les grands principes de la miséricorde. On peut dire que toute l'éducation des jeunes, des enfants et des jeunes, se ramène à la miséricorde. L'éducation consiste à faire des hommes, évidemment pas des hommes au sens de gros bras, ni de grosse tête, ni de que sais-je, mais de faire des hommes qui prennent leurs responsabilités dans la société et qui comprennent ce plan de Dieu, qui vont entrer dans le plan de Dieu, et comme je vous l'ai dit, étant donné que les hommes doivent imiter Dieu, toute la formation d'un jeune consiste à lui donner d'imiter Dieu dans son action. Et son action est une action de miséricorde. Il ne s'agit pas seulement de lui dire « Tu as beaucoup de chance et tu dois en faire profiter les autres. » Il s'agit de lui faire comprendre qu'un homme ne peut être que miséricordieux, sinon il n'est pas un homme, il est un orgueilleux, il est un égoïste, il est un tyran, il est un voleur, il est tout ce qu'on veut, mais pas un homme. Et quand on n'est pas un homme, on est une bête. Celui qui n'est pas miséricordieux est une bête. Vous comprenez, mes bien chers frères, que cela change considérablement notre manière de voir les hommes et notre manière de voir l'éducation. C'est dès le début que les enfants doivent être formés à la miséricorde, avec une miséricorde très simple, qui est une miséricorde corporelle, rendre service à maman, pardonner au petit frère ou à la petite sœur, pardonner au grand frère quelquefois ou à la grande sœur. Nous voyons dans la vie des saints des parents préoccupés de faire exercer la miséricorde par leurs enfants, ne serait-ce que donner du pain aux pauvres, ne serait-ce que se préoccuper des pauvres, ou bien dans la croisade eucharistique, prier pour les pauvres pécheurs, grande miséricorde spirituelle demandée par la Sainte Vierge à Fatima, aux enfants de Fatima et à travers eux à tous les enfants du monde et à tous les hommes du monde. La dernière impératrice d'Autriche, Zita, qui était issue d'une famille ducale régnante du nord de l'Italie, la Toscane si je me rappelle bien, avait été formée, on peut dire exclusivement, à la miséricorde et à la piété. Et avec cela, vous avez les qualités suffisantes pour une famille princière. Vous me direz, il faut quand même de la clairvoyance, de la prudence, de la justice, que sais-je. C'est une évidence. Mais ces qualités ne peuvent pas venir sans la piété et la miséricorde, et avec la piété et la miséricorde, elles s'exerceront de la meilleure manière qui soit. Et cette famille princière faisait de la couture pour les pauvres de la ville et visitait les pauvres de la ville. Vous verrez ça dans toutes les vies des saints, dans toutes les vies de jeunes saints. Tous les jeunes saints ont été éduqués de cette manière-là. Cela nous oblige à repenser l'équilibre entre les études et la miséricorde. On peut dire que les études doivent être considérées comme l'acquisition d'une richesse pour l'exercice de la miséricorde. C'était Pier Giorgio Frassati, jeune Turinois, bourgeois très dévoué, très miséricordieux, qui est véritablement un modèle pour la jeunesse. Et tout le monde pensait qu'en raison de sa très grande générosité, il était membre de la conférence Saint-Vincent-de-Paul, et lui qui était d'une famille très riche, voire même excessivement riche, visitait les pauvres, leur achetait des souliers, que sais-je encore. Ce n'est pas qu'il avait tant d'argent que cela, il était encore trop jeune pour en disposer, mais c'est surtout qu'il donnait son temps, sa préoccupation, et sa dernière préoccupation sur son lit de mort, puisque Dieu a voulu qu'il mourût très jeune, d'une maladie foudroyante. Il était sur son lit de mort et il se rappelait qu'il avait fait une promesse à des pauvres. Et il appelle un de ses ennemis, il griffonne un dernier mot sur un papier et il lui dit « Tu accompliras cette mission, cet engagement que j'ai pris et que je ne peux plus accomplir. » Et tout le monde pensait que Pier Giorgio Frassati serait prêtre. Et lui, non, décida d'être ingénieur, et ingénieur des mines. Et on lui demanda, mais pourquoi ingénieur des mines ? On s'étonnait, parce que la position d'ingénieur est une position élevée, bien rémunérée d'habitude, puis une position de liberté. Il répondit, parce que les mineurs dans la mine sont parmi les plus malheureux des ouvriers, et je veux par mon métier pouvoir les soulager. Voilà une véritable formation de jeunes, une véritable formation humaine. Nous devons prier pour nous, pour les autres, même si cet idéal merveilleux de miséricorde ne pourra pas être restauré dans notre pauvre pays et dans notre pauvre monde d'ici je ne sais combien de temps. Et s'il doit être restauré, cela sera-t-il solide, étant donné la faiblesse de l'homme moderne? Malgré tout, Dieu ne nous demande pas de restaurer la miséricorde dans le monde entier, il nous demande que de la rayonner autour de nous. Il nous demande que tous ceux qui nous approcheront soient pénétrés de ce halo de miséricorde, de cette chaleur de miséricorde, de ce bienfait de miséricorde. Et s'il y a vraiment une chose à demander à la Sainte Vierge, c'est bien celle-là, Mater Misericordiae, Mère de miséricorde. Non seulement soyez miséricordieuse envers moi, mais apprenez-moi à être miséricordieux comme vous-même l'avez été. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.